France Culture.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'Esprit Public. Aujourd'hui, l'Europe face à Trump, coopérer ou s'émanciper? Et la guerre des sexes est-elle à nouveau déclarée? À nos débatteurs ce dimanche, Marc Lazare, bonjour.
Bonjour.
Professeur émérite d'histoire et de sociologie politique à Sciences Po et à l'Université Louis de Rome. Vous avez publié en novembre 2024 un livre, je vais essayer de le dire avec un accent qui est le mien, « Crisis and Challenges of the European Left », j'avais répété, « Les crises et les défis pour la gauche européenne », c'est publié en Italie, aux éditions Feltrinelli. Peut-être bientôt une traduction en français?
Ben, j'espère.
Magali Forcade, bonjour.
Bonjour, Alain Pagardette.
Vous êtes magistrate, secrétaire générale de la CNCDH, la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Bertrand Badi, bonjour.
Bonjour.
Professeur en relations internationales, votre dernier livre chez Flammarion, L'art de la paix. Et Didier Lesky, bonjour.
Bonjour.
Directeur général de l'OFI, Office français de l'immigration et de l'intégration. Et vous êtes par ailleurs président de l'Institut européen en sciences des religions. Alors dans la deuxième partie de l'émission, nous évoquerons le rapport annuel du Haut Conseil à l'égalité publié cette semaine, le HCE qui met en exergue une polarisation croissante entre les hommes et les femmes, en particulier dans la jeune génération. Les garçons notamment seraient de plus en plus tentés par le masculinisme. Est-ce à dire qu'une nouvelle guerre des sexes est déclarée? Nous en débattrons. Mais pour commencer, direction Davos en Suisse, le Forum économique mondial. Donald Trump y intervenait à distance jeudi, et même de loin, Trump a fait du Trump.
From the standpoint of America, the EU treats us very, very unfairly, very badly.
Du point de vue des États-Unis, l'Union européenne nous traite très, très injustement, très mal. Vous savez, j'essaie d'être très constructif parce que j'aime l'Europe, j'aime les pays d'Europe. Mais le processus est très lourd et il traite les États-Unis d'Amérique de manière très, très injuste avec les taxes sur la TVA et toutes les autres taxes qu'ils imposent.
Et une nouvelle fois, Donald Trump n'a donc pas mâché ses mots. Invité à intervenir à distance lors du sommet de Davos en Suisse, le président américain a tenu un discours aux antipodes des idées de libre-échange défendues dans cette enceinte, symbole de la mondialisation économique. « Venez fabriquer vos produits en Amérique », a dit Trump, « et vous bénéficierez des impôts parmi les plus bas du monde. Mais si vous ne les produisez pas aux États-Unis, vous devrez payer des droits de douane ». L'avertissement vaut pour le monde entier, mais vous venez de l'entendre, une partie du discours était adressée plus spécifiquement à l'Europe et aux Européens, avec les mêmes menaces, appliquer des surtaxes aux marchandises venues du vieux continent. Alors, ce qui irrite au plus haut point Donald Trump, c'est le déficit commercial entre son pays et ceux de l'Union européenne. Selon lui, ce déficit serait de 350 milliards de dollars, ce qui est inexact, on est plutôt aux environs de 150 milliards, ce qui est déjà conséquent, d'où cette idée de renverser la table pour rétablir l'équilibre. Au côté européen, la menace des droits de douane est prise au sérieux. Perdre le marché américain, ce serait perdre des points de croissance à un moment où l'économie des 27 patine, en particulier en Allemagne. Dès lors, faut-il négocier avec Trump, passer un deal pour que chacun y trouve son compte? La question est d'autant plus complexe qu'elle ne s'arrête pas aux seules relations commerciales entre les deux puissances. Donald Trump fait peser une autre menace que celle d'une hausse des droits de douane. Un moindre soutien financier aux forces de l'OTAN et à l'Ukraine si les pays membres de l'Alliance Atlantique n'investissent pas au moins 5% de leurs richesses dans les équipements militaires, contre 2% actuellement. Alors, dans ces conditions, que doivent faire les 27? Capituler face aux exigences du président américain ou se révolter? La présidente de la Commission européenne propose une voie médiane. Nous serons pragmatiques, mais nous resterons toujours fidèles à nos valeurs, assure Ursula von der Leyen, mais s'agit-il d'un vœu pieux? Bertrand Badi, je vais commencer avec vous. Bah tiens, une fois n'est pas coutume, je vais vous poser la question générique qu'on pose aujourd'hui. Est-ce que l'Europe face à Trump doit coopérer ou bien est-ce qu'elle doit s'émanciper?
Alors, est-ce que c'est d'abord la bonne question?
Je dirais que oui.
Il n'y a pas de bonne question qui ne passe préalablement par une analyse critique et une réévaluation des situations. D'abord, qu'est-ce que l'Europe? Moi, ce qui me frappe, c'est que l'Europe est dans une situation d'éclatement et je dirais plus de diversification. Et c'est peut-être de là qu'il faut partir, c'est-à-dire faire le constat exact de cette diversification qui frappe l'Europe. Il y a au moins 4 Europes, il y en a peut-être 6, et c'est ça qui est peut-être le plus grave. Il y a l'Europe illibérale trumpienne, ça c'est l'Italie de Meloni, qui a été au premier rang des invités lors de l'investiture. Il y a l'Europe illibérale poutinienne, ça c'est Orban, c'est Fico. Il y a l'Europe libérale délibérément atlantiste, ça c'est l'Allemagne et d'autres aussi. Et une Europe qui... Et enfin des pays d'Europe qui essayent de jouer effectivement la carte de l'autonomie parce qu'ils pensent que cette autonomie finalement servira leur puissance et je pense notamment à la France.
Ça, donc, ça veut dire que selon vous, Bertrand Badie, face à ce paysage éclaté en Europe, il ne peut pas y avoir de réponse commune face à l'Amérique de Trump ?
Mais justement, il ne peut pas y avoir de dénominateur commun pour deux raisons. La première, c'est que chacun de ces quatre coins a une bonne raison pour rester d'une manière ou d'une autre dans le statu quo et dans ne pas réviser les rapports qu'il y a avec les États-Unis. Et c'est peut-être là le paradoxe, c'est le plus important. Il y a toujours eu, depuis en tous les cas 1945, un désir secret, plus ou moins secret, de bénéficier de l'assurance américaine, du parapluie et de la protection américaine. Alors, ça peut être pour des raisons d'opportunité, mais ça peut être d'opportunité politique et d'opportunité de défense, mais ça peut être aussi pour des raisons d'ordre économique. C'est-à-dire, on voit mal aujourd'hui comment l'Allemagne, par exemple, pourrait se lancer dans un affrontement, une confrontation avec les États-Unis, alors que son intérêt est au contraire guidé par ce besoin de rester attaché à l'économie américaine et bénéficier du marché américain. Il y a derrière cela, on en parle peu, mais c'est quand même une matrice importante, le fameux projet Édipe, c'est-à-dire de constituer une industrie européenne de la défense. Et si je hasardais un mauvais jeu de mots, je dirais c'est l'expression même de l'Édipe européen, c'est-à-dire de cette incapacité qu'a l'Europe de se distinguer des États-Unis. Le projet Édipe, c'est par exemple, attention, rien de ce que nous produirons en matière de défense devra dépasser les 35% d'emprunt à des éléments de production qui nous seraient extérieurs. On n'y arrive pas. D'abord, ce projet piétine au moment où il devrait être logiquement accéléré. D'autre part, on n'y arrive pas parce que là aussi, les intérêts sont beaucoup trop diversifiés. L'autre élément, c'est que il y a derrière le discours de Trump quelque chose que l'on sous-estime, qui est une expression militante contre l'idée même d'alliance. C'est-à-dire que Trump est entré dans la séquence des relations internationales post-alliance, où on ne pense plus en termes d'alliance, mais en termes de rapports bilatéraux. C'est-à-dire il entre, lui aussi, dans ce que j'ai appelé autrefois le polyamour diplomatique. C'est-à-dire on change de partenaire en fonction de l'enjeu que l'on a à traiter. Et ça, paradoxalement, l'Europe, mais peut-être pas paradoxalement, parce que c'est l'histoire de l'Europe. L'alliance, c'est un concept, c'est une aventure inventée par l'Europe dans sa conception même des relations internationales. Elle a du mal à s'en défaire. Mais dernier élément, ce qui, moi, m'inquiète le plus, c'est que, évidemment, Trump et ses partisans focalisent sur la Chine, mais se sont bien vite rendus compte qu'ils ne pourraient pas faire grand-chose face à la Chine et que ça sera beaucoup plus facile pour eux de s'attaquer à l'Europe que de s'attaquer à la Chine. Donc, vous voyez, la situation n'est pas très belle, c'est-à-dire nous sommes dans une situation de division, nous sommes dans une situation d'addiction européenne aux États-Unis et nous sommes dans une situation d'hyper-vulnérabilité. À part ça, bon dimanche.
Division, donc, du côté des Européens, et scénario le plus probable, vous nous disiez, Bertrand Badie, c'est le statu quo. Est-ce que d'abord, vous êtes d'accord avec ça, vous, Marc Lazare? Est-ce que ça témoigne pas d'une impréparation des Européens à trouver une réponse commune aujourd'hui face à ce qu'est Donald Trump? Et on ne peut pas dire qu'il y a énormément de surprises non plus dans ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il l'avait annoncé pendant sa campagne, ça faisait assez longtemps d'ailleurs.
Oui, mais je crois que ce qui se passe actuellement, ça ne crée pas cette situation en Europe, ça révèle justement des dilemmes et des problèmes classiques de l'Union européenne. Alors j'ai des points d'accord et de désaccord avec Bertrand. En particulier, sa classification de l'Italie du côté des démocraties libérales trumpiennes, je trouve que c'est beaucoup trop simpliste. C'est vrai que Giorgia Meloni a été la seule chef d'État, enfin le chef de gouvernement européen à être invitée. Ursula von der Leyen n'a pas été invitée.
Orban a été invité.
Non.
Mais il n'est pas venu.
Non, il n'a pas été invité. Non. Et c'est d'ailleurs quelque chose de très intéressant. Il n'a pas été invité alors qu'Orban, pour le Parti républicain et pour les Trumpiens, était un modèle. Je ne sais pas pourquoi, mais il n'a pas été invité. Ça, j'ai vérifié. Et Orban n'est pas venu. En revanche, là où je rejoins Bertrand Badie, c'est qu'effectivement, il y a un certain nombre de pays, la Slovaquie, la Hongrie, et peut-être l'Autriche demain, qui seront totalement sur les positions trumpiennes et qui en plus sont pro-russes. Là, je vous rejoins entièrement, Bertrand. En revanche, donc, pour revenir sur le cas italien, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que d'un côté, c'est vrai donc que Giorgia Meloni a été invitée, c'est vrai qu'idéologiquement, elle est très proche de Trump et très proche d'Elon Musk, mais il faut toujours, puisque Bertrand Badie faisait référence à juste raison à l'histoire, que l'Italie a toujours été pro-atlantique, toujours eu d'excellentes relations, quelle que soit l'administration. Elle avait d'ailleurs de très bonnes relations avec Joe Biden. Qu'est-ce qu'elle va faire? Ça, c'est le grand point d'interrogation. Est-ce qu'elle va jouer juste la carte du bilatéralisme, profitant effectivement de cette volonté trumpienne d'avoir des relations bilatérales, ou est-ce qu'elle va essayer de combiner un rapport bilatéral privilégié, notamment pour essayer d'éviter des sanctions, et notamment des taxes sur les exportations italiennes, puisque l'Italie, et pour l'Italie, les États-Unis sont le deuxième marché quand on prend pays par pays, hein, 52% des exportations italiennes sont dans le cadre de l'Union européenne, mais le deuxième pays, donc après l'Allemagne, c'est les États-Unis. On peut le penser, puisque Trump a dit, il y a deux jours, elle me plaît beaucoup, Giorgia Meloni, et donc, pour les sanctions, on verra. Donc, elle peut jouer cette carte. Ou est-ce qu'elle va jouer une carte européenne, c'est-à-dire d'essayer d'apparaître comme la protagoniste principale de la relation entre Trump et l'ensemble de l'Union européenne, à ses conditions à elle. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas exactement les positions d'Orban, parce qu'Orban a quand même lancé ce tweet « On va occuper Bruxelles », mais qui serait une position, entre guillemets, constructive sur ses positions. Et quelles sont ses positions? D'une part, les questions d'immigration, et d'autre part, l'autre question fondamentale qui est liée à la politique trumpienne, qui est justement la fin du Green Deal, ou en tout cas réduire du pacte vert, réduire au minimum le pacte vert.
Mais est-ce que vous diriez, Marc Lazare, que les Européens auraient intérêt à jouer de cette relation privilégiée entre Giorgia Meloni et Donald Trump pour essayer de défendre des intérêts plus larges que ceux de la seule Italie?
Non, je ne pense pas que ça doit être la bonne politique, et je pense que Ursula von der Leyen, vous l'avez dit, Hervé Gardette, elle est sur une position pragmatique. Je dirais que c'est pire que ça. Elle a dit on va tout de suite prendre le pétrole et les armes des États-Unis pour l'Europe, et c'est-à-dire capituler avant même toute négociation. Non, je pense que l'hypothèse sur laquelle on peut travailler dans la situation de grande faiblesse qu'a expliqué Bertrand Badie, de l'Union européenne, c'est celle que esquissait Thierry Chopin dans un très bon article de décembre 2024. Thierry Chopin est un de nos meilleurs spécialistes des questions de la construction européenne, dans un article du Monde. C'est-à-dire de dire, mais on a des expériences quand même récemment, la crise financière, la crise du Covid, la guerre en Ukraine, où quand l'Europe a réussi à réagir plus ou moins rapidement, ça a été long pour la crise financière, ça a été beaucoup plus rapide pour le Covid, ça a été encore plus rapide sur la guerre en Ukraine, c'est quand l'ensemble des institutions européennes ont réussi à se mettre d'accord et avoir une politique commune. Est-ce que ça sera possible? Je ne sais pas. C'est-à-dire le Parlement européen, le Conseil européen, la Commission européenne, la BCE, si on agit ensemble, dit Thierry Chopin, et ça a été le cas dans le passé, eh ben on peut avoir une attitude commune. L'enjeu est gravissime et urgentissime. Je ne sais pas si ça sera résolu, mais c'est peut-être la voie et la seule voie à explorer.
Alors, quelle peut être, si tant est qu'il y ait une attitude commune, quelle peut être cette attitude? Il y a le président du Parti populaire européen, le PPE, principale formation politique au Parlement européen, l'Allemand Manfred Weber, qui estime qu'il faut offrir un deal à Donald Trump, à être dans une démarche transactionnelle. Est-ce que ça peut être la bonne méthode des Européens, Magali Lafourcade, face à la nouvelle administration américaine? C'est-à-dire trouver du donnant-donnant, lui donner quelque chose en échange de je ne sais quoi, d'ailleurs.
Une méthode, sûrement la bonne, je ne sais pas, parce qu'on voit bien que pour Trump, il met tout sur la table, c'est-à-dire les enjeux de sécurité de l'OTAN avec les enjeux de la régulation des plateformes numériques et avec les enjeux de la guerre commerciale et des droits de douane. Donc, effectivement, il est dans cette démarche transactionnelle et un deal est possible. Mais moi, je au risque d'être un peu provocatrice. Je pense que l'Union européenne, dans cette histoire-là, est dotée d'un certain nombre de forces qu'il ne faut pas occulter et que Trump, lui, est aussi handicapé par un certain nombre de faiblesses. Et donc, il faut aussi voir le jeu, surtout si on doit faire des deals, au vu de ces deux aspects.
Les forces, c'est
quoi ? Du côté des forces, déjà, les Européens ont perdu toute naïveté vis-à-vis de Trump, ce qu'ils avaient eu quand même lors de leur premier mandat. Ils savent qu'il est capable de mettre à exécution un certain nombre de menaces. Et on a eu des discours de Trump complètement dingues sur le Groenland, sur le Panama, sur une histoire autour des frontières, sur le Canada. Donc, il attaque en priorité ses alliés, qui peuvent être autant de partenaires avec lesquels on peut construire. Et c'est étonnant d'ailleurs qu'il attaque pas plus ses ennemis, notamment la Chine, mais qu'il s'intéresse d'abord à attaquer ses alliés.
Et ça, vous y voyez une force pour les
Alors,
Européens ?
Oui, parce que ça peut créer, ça peut souder. Ça peut souder, d'autant que l'Union européenne a cette force, qu'elle est un marché économique extrêmement intéressant, très riche, et que d'ailleurs, il y a un déficit commercial que pointe Trump donc en faveur de l'Union européenne qui est très important. Donc, elle a des atouts. C'est aussi pour ça qu'elle est attaquée aussi parce qu'elle incarne quelque chose qui est la démocratie, la prééminence du droit, et c'est pour ça aussi qu'Elon Musk l'attaque violemment autour de la question de la régulation. Donc, elle peut trouver des partenaires. Ensuite, si on se replace il y a 8 ans, quand Trump est arrivé, on disait c'était le moment du Brexit. Tout le monde pensait que l'Union européenne était en risque de désagrégation et que les Britanniques étaient les meilleurs négociateurs du monde et qu'ils allaient faire du bilatéral et arriver à empêcher toute union. Et en fait, non. L'Union européenne, elle s'est soudée. Elle a réglé le Brexit. Ça a pris du temps. Elle a été très forte. Elle a pu construire aussi une réponse face à la pandémie qui a montré qu'elle était efficace, utile. Donc, on voit que finalement, elle a des éléments de fragilité, mais qu'elle a su survivre aussi au premier mandat de Trump. Et puis, les faiblesses de Trump sont aussi des forces aussi dans cette discussion avec l'Union européenne. D'abord, Trump, désolé de le rappeler, mais il est au fait de sa puissance aujourd'hui, mais en fait, c'est le début de la fin, parce que c'est son dernier mandat, sauf s'il se transforme en dictateur. Dans deux ans...
Il y a déjà des initiatives pour triturer un peu la Constitution américaine.
En l'état des choses actuelles, en l'état de la constitution américaine actuelle, c'est son dernier mandat. Dans 2 ans, il y a les midterms. Il est traversé de difficultés internes, puisque entre les barons de la tech et la base MAGA, on voit que si on coupe les aides fédérales, il peut s'aliéner une partie de son électorat et perdre les midterms, ce qui devrait ne plus lui donner tous les pouvoirs. Et puis, une résistance s'organise à l'intérieur, la justice, les gouverneurs, et face à tout ça, on peut se dire que l'Union européenne peut jouer un rôle qui ne serait pas dérisoire et peut avoir une ambition de s'opposer et surtout d'éviter de vouloir acheter des choses à Trump et se poser en victime, alors qu'elle devrait pouvoir promouvoir son modèle, d'autant qu'elle est une puissance économique et un modèle de prééminence du droit et de démocratie.
Donc, des faiblesses du côté de Trump, des forces du côté de l'Union européenne. Didier Leschi, mais pourquoi les Européens n'en profitent pas pour taper du poing sur la table ? Pourquoi se faire dicter les conditions par le président américain ? Pourquoi est-ce que c'est pas nous qui utilisons notre force pour lui répondre de manière aussi virulente ?
Non, mais vous avez raison. Et je vais être provocateur.
Décidément.
Mais bien sûr. Pourquoi ? Parce que enfin, dans cette catastrophe, je pourrais dire, enfin quelque chose est en train de se passer. Parce que qu'est-ce que c'est que la construction européenne ? Je vois Bertrand Badie qui nous dit il y a peut-être 4 ou 6 Europes. En réalité, on a un truc fantôme depuis des années, et en particulier fantôme sur les questions de défense et de construction industrielle. Et la politique des États-Unis depuis le début. Et grâce en particulier à la politique allemande, ça a été d'empêcher la construction européenne. Voilà. Et donc là, on arrive au bout du bout. Et dans cet empêchement de la construction européenne, il y a une date qui a été importante du point de vue de la défense, puisque maintenant, on a un problème en Europe avec l'Ukraine et la Russie. C'est la réintégration dans le commandement intégré de l'OTAN en 2008. Voilà. C'est la volonté des Allemands, en réalité, de ne pas construire une défense européenne, d'être une sorte de Suisse, et en même temps qu'une sorte de Chine, puisqu'ils exportaient vers la Chine Poutine et en même temps refusaient d'assumer l'idée d'une défense européenne.
Ils ont changé quand même depuis trois ans.
Bien sûr qu'ils ont changé, mais ils ont changé justement parce que le danger, il est vraiment là. Voilà. Et il est d'autant plus important, et c'est pour ça que je pense que d'une certaine manière, dans cette catastrophe, il y a une bonne nouvelle, parce que depuis, je dirais, les années 70, qu'est-ce que c'était que la perspective ? C'était essayer de construire une troisième voie entre l'Union soviétique et l'impérialisme américain. Et systématiquement, ça a été cassé. Alors, moi, je fais partie, peut-être comme Marc Glazard, des générations qui ont été particulièrement motivées par la Révolution portugaise, par l'Italie, par des tas de choses comme ça, où systématiquement, ce qui a été mené, et en particulier grâce à cet allié indéfectible qui a été l'Allemagne du côté des États-Unis, ça a été de casser l'idée d'une troisième voie. Or, maintenant, ben voilà, on est face à un ennemi, et d'une certaine manière, à deux ennemis en Europe, et donc, soit on se réarme véritablement, c'est-à-dire on investit véritablement dans la défense, et c'est tout l'enjeu de ce qui est en train d'être discuté, que Bertrand Badie a rappelé, l'idée de mettre en place un investissement massif pour reconstruire une industrie de défense. Et puis, il y a la question du libre-échange, l'idée que on venait aller construire un espace où, en réalité, c'est le moins-disant social qui l'emporte et qui détruit notre industrie, eh bien, ça va s'arrêter. Trump, il dit, oui, je veux mettre des barrières douanières, mais nous, on pourrait dire, ben voilà, on va mettre des barrières douanières sociales, on va dire, on n'importe pas n'importe quoi de la Chine à bas coût, quitte à détruire notre industrie automobile, et même la perspective de transformer notre industrie automobile du côté de la voiture électrique, puisqu'ils sont en train de démonter notre industrie de ce point de vue-là, etc. Et donc, il y a quelque chose qui est peut-être à saisir dans cette catastrophe.
Donc, vous dites autonomie stratégique du point de vue de la défense et protectionnisme européen sur le plan commercial.
Mais en tout cas, arrêtons de se laisser dépouiller de tout. Voilà, franchement. Et en plus, ça nous pose des problèmes, en particulier des problèmes d'intégration, d'emploi. 35% des Syriens qui sont rentrés en Allemagne sont aujourd'hui au chômage. Et ça va s'accentuer parce que justement, il y a une crise économique profonde aujourd'hui en Allemagne du point de vue de son industrie. Ce qui faisait sa force est en train d'être démantelé par la Chine, parce qu'elle a choisi pendant des années de considérer que la Chine était son lieu d'exportation, et maintenant ça lui revient en boomerang.
Vous êtes quand même, vous êtes en train de dire quoi, c'est-à-dire que l'immigration syrienne est en train de plomber l'économie allemande.
Je dis que dans toute l'Europe, nous avons un problème social majeur et dont on voit que les premières victimes sont ceux qu'on a heureusement accueillis. Voilà. Et c'est le cas en Allemagne, mais c'est le cas en Suède et c'est le cas aussi en France. On peut pas penser les questions de l'intégration si on n'arrive pas à reconstituer quelque chose qui montre que les personnes peuvent avoir une utilité sociale, et l'utilité sociale, c'est de produire de la richesse. Et c'est d'être autonome grâce à un salaire. Et c'est ça que la politique du libre-échange et du marché libre et non faussé a systématiquement cassé, et en particulier en France.
Je vous ai vu réagir à plusieurs reprises, Marc Lazard.
Non, sur un point, deux points. Sur la question de la défense, Didier Lesquet a raison. C'est la question elle a été posée depuis longtemps, depuis la communauté européenne de défense d'ailleurs. Donc c'est pas la première fois que ça se pose. Et on a échoué à plusieurs reprises à constituer cette défense européenne. Il y a des lignes qui évoluent un peu dans la candidature, dans la campagne électorale en Allemagne. Le candidat de la CDU-CSU a, pour une fois, esquissé la possibilité qu'il y ait une défense européenne en insistant sur l'importance de la relation qu'il y aurait entre l'Allemagne, la France et la Pologne. Donc, on va voir si ça va un peu aller dans la bonne direction. Mais il y a un problème, c'est-à-dire d'augmenter considérablement les dépenses pour la défense. Ça veut dire faire des économies sur d'autres éléments du budget de chaque État. Et dans la situation sociale, économique et sociale que vous décrivez, Didier, ça aura des impacts considérables. Et donc, c'est très difficile quand Trump dit vous devez continuer, si vous voulez continuer à rester dans l'OTAN, il faudra faire 5% du PIB pour la défense. C'est extraordinairement difficile comme choix budgétaire des différentes politiques publiques dans les différents pays de l'Union européenne. Et d'autre part, il y a un problème par rapport à l'opinion publique. C'est-à-dire que nous avons des opinions publiques qui non seulement vont protéger contestés sur les choix qui seraient faits, mais qui en plus globalement en Europe sont marqués par le pacifisme. Il ne faut jamais oublier que pour la guerre en Ukraine, il y a eu d'énormes manifestations, pas tellement en France, mais d'énormes manifestations pacifistes en Allemagne et en Italie, deux pays caractérisés par une tradition pacifiste importante. Deuxième élément par rapport à ce que disait Magali sur les négociations du Brexit. C'est très intéressant le cas du Brexit, parce que l'Union européenne a agi là de manière unitaire avec un leader, avec un négociateur, et qui s'en est très bien sorti. Il n'a pas eu... Michel Barnier, qui n'a pas eu la même capacité en tant que chef de gouvernement. Alors, la question qui se pose ici, c'est de savoir si, effectivement, l'Union européenne pourrait désigner une personnalité, homme ou femme, pour être capable d'être le grand négociateur par rapport aux États-Unis. Il y a un homme, je suis désolé, on va parler tout à l'heure de la guerre des sexes, mais il y a un homme qui pourrait s'imposer, celui dont tout le monde dit qu'il a fait un rapport absolument remarquable, c'est-à-dire Mario Draghi, tout le monde dit dans l'Union européenne que ses rapports avec le rapport Enrico Letta sont des rapports absolument fondamentaux. Et on voit bien d'ailleurs qu'avec cette nouvelle administration trumpienne, c'est la question de la... Tout le monde a trouvé que les rapports... Tout le monde. Les chefs d'État et de gouvernement, la Commission européenne, ont trouvé que ces deux rapports étaient fondamentaux, notamment celui de Mario Draghi, mais aussi celui d'Enrico Letta. La concrétisation de ces rapports n'est pas encore réalisée.
Je vais dire un mot du contenu du rapport de Mario Draghi. C'était plan massif d'investissement.
500 milliards d'euros. Et tout le monde a plus donc une dette commune. Et Mario Draghi a dit, nous sommes dans une situation de décrochage. Donc effectivement, je crois que là, il y aurait une possibilité, par exemple, de confier à l'un de ces deux rapporteurs, Mario Draghi ou Enrico Letta. Mario Draghi est encore plus connu qu'Enrico Letta. Et donc de lui donner cette capacité de négociation, d'autant plus que, par rapport aux autorités américaines, il a effectivement une certaine reconnaissance. Donc ça pourrait être une piste à envisager.
Bertrand Badie.
Oui, moi je trouve un peu optimiste. C'est-à-dire, il suffit pas qu'on brandisse un épouvantail pour que l'homme providentiel ou la femme providentielle vienne régler les problèmes auxquels on est confronté. Je crois que c'est beaucoup plus grave que ça. Quand on est face à une institution, faut déjà se demander de quel contexte elle est née. Et ce contexte, il continue terriblement et paradoxalement à peser sur cette institution. Le contexte était double. L'Union européenne, la construction européenne s'est faite dans le contexte de la guerre froide, d'une bipolarité où il y avait les bons d'un côté et les mauvais de l'autre, et le super bon, c'était les États-Unis. Donc il y est resté cette accoutumance à l'idée, finalement, d'appartenir à une civilisation occidentale dont l'étendard est porté par les États-Unis. Et moi, je ne vois pas de signes véritablement crédibles qui montrent qu'on est en passe de réviser cette idée qui est largement dépassée. Parce que figurez-vous que depuis la construction européenne, l'espace mondial s'est complètement restructuré, il y a des puissances émergentes, il y a la Chine, et je constate que l'Europe n'a jamais été capable, sauf fabriquer des mots auxquels je n'ai jamais rien compris, du style rival systémique, ce qui veut strictement rien dire, parce que s'il y a un système, il n'y a pas de rival, régler ce problème de ces nouveaux partenariats. Et il faudrait commencer par là. C'est-à-dire que l'Europe se définisse par rapport au reste du monde et comprendre qu'elle n'est pas seule au monde depuis la chute du mur de Berlin. Le deuxième contexte, c'est que on s'est construit pour éviter la guerre, et ça c'était très bien, parce qu'on a parfaitement réussi, mais à partir du service minimum, c'est-à-dire on évitera la guerre à partir d'une logique associative. Or, les transformations tant de l'économie mondiale que de la diplomatie mondiale font que c'est plus d'une association dont on a besoin, c'est d'une solidarité. Or, le passage d'une Europe associative à une Europe solidaire, ce n'est qu'une Europe solidaire qui peut répondre aux défis dont vous avez parlé tout à l'heure. On n'y va pas, parce que qu'est-ce qu'il y a dans la tête des 27 ? Ouh là là, si on construit l'EDIP ou cette Europe de la défense, ça va profiter à la France parce que c'est la seule puissance militaire nucléaire de l'Union européenne. Donc après tout, mieux vaut dépendre des États-Unis qui sont loin que de l'Europe qui est proche. On va dépendre de tel ou tel État qui est stratégiquement mieux placé que d'autres, etc. Et du coup, on n'a toujours pas ce langage de la solidarité, c'est-à-dire effectivement abandonner la référence à lequel d'entre nous va mieux s'en sortir de cette nouvelle équation. Et de ce fait, la seule façon, c'est bien connu en sciences politiques, mais pas seulement, quand on n'est pas d'accord et qu'on ne sait pas comment s'adapter, on continue comme on est. C'est là la vertu du statu quo. Je ne vois pas l'ombre d'un départ, d'une réponse nouvelle à ce qui n'est pas seulement le défi trumpien. Trump, c'est un épiphénomène, c'est une vaguelette, mais ce qui est le défi de la mondialisation auquel on n'a toujours pas répondu.
Et dans cette équation, il y a un acteur dont il me semble que nous n'avons pas prononcé le nom jusqu'à présent, c'est la Chine. Il se trouve qu'Ursula von der Leyen, la présidente de... Ah, vous l'avez dit ?
Ah, bon, ouais. Bertrand Badi, alors pas suffisamment... ne peut pas faire une intervention sans citer la Chine.
Merci. Merci.
Bon, vous ne l'avez dit qu'une fois, en tout cas. Ben, voilà,
fois,
ce sera la deuxième fois.
Ah, vous n'écoutez pas.
N'arrêtez pas de me contredire aujourd'hui. Voilà. Bref, voilà. Je voulais en venir à ce qu'a dit Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, à Davos cette semaine. Elle a assuré que l'Union européenne était prête à approfondir sa relation avec la Chine. Il est temps de rééquilibrer notre relation avec la Chine dans un esprit d'équité et de réciprocité. Guilherme Fourquette, pour terminer sur cette discussion, est-ce que l'Union européenne a intérêt à diversifier ses alliances, y compris avec des régimes avec lesquels on n'est pas toujours très à l'aise, certes peut-être sur les questions économiques, mais sur les questions par exemple des droits humains dont vous êtes notre spécialiste ici, oui. C'est plus compliqué.
Là, ça me semble très très compliqué, vraiment. C'est-à-dire qu'on est, on a pu voir à quel point on est dépendant, ne serait-ce que sur les médicaments, sur beaucoup de choses de la Chine. Donc la Chine est centrale dans notre chaîne de valeur, mais vouloir faire un partenariat plus politique me semble vraiment, vraiment très compliqué. Moi, je voudrais quand même revenir sur le fait que justement la Chine risque d'être impactée par des droits de douane. On sait qu'il y a des économistes qui ont modélisé tout ça. Si il y a une augmentation très importante des droits de douane par les États-Unis sur les importations, c'est aussi son économie qui va risquer des ravages, notamment de l'inflation, alors qu'on sort d'une période inflationniste très forte aux États-Unis. C'est pour ça que la révolution du sens commun, enfin du bon sens prôné par Trump, risque quand même de faire des dégâts à tous les étages aux États-Unis. C'est vrai qu'en Europe, on manque de leadership. Il y a beaucoup d'interlocuteurs institutionnels et le couple franco-allemand est à la peine. C'est pour ça que si Madame von der Leyen écoute Marc Lazare, il faut absolument qu'elle suive son conseil de nommer Mario Draghi. Mais juste pour finir sur le militaire, qui pour moi est le plus grand danger qui nous occupe, il faut rappeler que l'OTAN a quand même été renforcée par l'adhésion de la Finlande et de la Suède. Mais ce qu'il faut aujourd'hui, c'est pas seulement des investissements, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus structurel que ça. L'Allemagne, d'ailleurs, a mis 100 milliards sur la table pour investir dans le militaire. Il faut aussi des champions européens, ça se crée pas d'un claquement de doigts. Et il faut lutter contre cette fragmentation de notre vision militaire européenne qui multiplie les coûts et qui surtout nuit à l'efficacité et à la cohérence d'ensemble. Je crois que c'est aussi là-dessus qu'il faut jouer. Et dans l'esprit de Mario Draghi, de la compétitivité européenne, il faut aussi penser cette espèce de compétitivité à l'échelle de l'Union au niveau du militaire.
Un tout dernier mot de Didier Lesky.
Non, mais la Chine, c'est notre ennemi stratégique, intellectuel et social. Et la difficulté pour nous, c'est qu'il ne faut pas que Trump apparaisse comme le fer de lance de la lutte contre un système qui est quand même extrêmement dangereux, puisque c'est un système autoritaire qui, en même temps, développe une économie qui est, dans certains secteurs, très performante et qui, en plus, finit par être un modèle que des pays, en particulier dans ce qu'on appelle le Sud global, eh bien, admirent. Et pour nous, par exemple, français, c'est ce qui se passe en Chine. On a un développement de l'influence chinoise qui est très mauvaise.
On passe à notre deuxième sujet. On va changer. C'est plus la guerre commerciale, mais c'est la guerre des sexes.
France Culture, l'esprit public. Hervé Gardette.
Vous trouvez pas qu'elles auraient tendance à nous faire chier? Toutes? Vous êtes du quartier?
Non, de Montrouge.
Et elles sont comment à Montrouge? Va arriver un moment où on pourra plus, ça c'est sûr. Et alors là?
À force de jouer avec nos nerfs. Fragile les nerfs.
Et on en a beaucoup. Alors s'ils pètent tous à la fois, ça risque d'abîmer leur petite gueule.
Elles auront que ce qu'elles ont cherché.
Ah là, vous les avez probablement identifier les moustachus les plus célèbres du cinéma français, Jean Rochefort et Jean-Pierre Marielle. Leur dialogue, à la fois irrésistible et terriblement misogyne, est extrait du film Calmos, sorti en 1976. Et il circule ces jours-ci sur Internet pour rendre hommage au réalisateur Bertrand Blier, disparu cette semaine. Alors cet échange entre deux mâles qui n'en peuvent plus de ces bonnes femmes qui les font chier paraît terriblement daté, mais l'est-il vraiment ? Le ressentiment exprimé par les personnages incarnés par Rochefort et Marielle, il y a 50 ans, n'est-il pas en train de refaire surface? Eh bien, la question se pose à la lecture du dernier rapport annuel du HCE, le Haut Conseil à l'égalité, publié cette semaine et qui fait mention d'une polarisation croissante entre les hommes et les femmes. Une polarisation particulièrement saillante dans la jeune génération. Alors que les filles apparaissent de plus en plus féministes, les garçons seraient de plus en plus masculiniste, gros malaise chez les mecs. Alors, quelques chiffres tirés de cette étude menée auprès d'un échantillon représentatif de 3200 Français. 45% des hommes âgés de 15 à 34 ans considèrent qu'il est difficile aujourd'hui d'être un homme, score très nettement en hausse par rapport à la même étude il y a 2 ans. 13% de cette tranche d'âge considèrent même qu'il est difficile d'être un garçon et facile d'être une fille. Alors ce qui est frappant, c'est que les résultats de l'enquête du HCE corroborent un mouvement qui s'observe dans de nombreux autres pays, en Corée du Sud par exemple, ou encore aux États-Unis où le phénomène se mesure dans les urnes. Trump n'a ainsi recueilli que 28% des voix des femmes de moins de 30 ans, beaucoup moins que chez les jeunes hommes. Une polarisation donc qui se traduit par une progression de la pensée masculiniste sur les réseaux sociaux, mais aussi dans le discours médiatique et politique, et qui s'explique sans doute notamment par un phénomène de retour de bâton suite au mouvement MeToo. Reste à savoir s'il s'agit d'un phénomène durable. Alors, vous l'aurez remarqué, autour de cette table, nous n'avons pas respecté la parité homme-femme, 3 hommes, 1 femme. Bon, bah, dimanche dernier, il y avait 3 femmes et 1 homme. Et finalement, pour parler peut-être de masculinisme, c'était pas mal d'avoir une majorité d'hommes, même si je vais commencer avec vous, Magali Lafourcade, sur cette polarisation d'abord. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a surpris dans cette étude du Haut Conseil à l'égalité, ce qui est donc constaté des jeunes filles qui sont défendent de plus en plus les questions autour du féminisme et les garçons tentés par ce qu'on appelle le masculinisme?
Alors déjà, je pense que je compte triple autour de la table. Alors ce qui m'a beaucoup intéressé dans cette étude, c'est 2 choses. La première, c'est bien sûr ces résultats que j'ai lus avec beaucoup d'attention et qui montrent en fait un phénomène récurrent qui est que aujourd'hui, la crise de la masculinité est quelque chose qui existe depuis la Rome antique, hein, qui est documenté depuis longtemps avec la souffrance des hommes face à ces avancées des femmes. On peut dire aussi que aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a une jeunesse, une certaine jeunesse, qui, quand elle cherche comment avoir des muses, comment séduire, etc., tombe sur, massivement avec les algorithmes, des contenus qui sont masculinistes et qui visent à promouvoir la haine des femmes. Mais ce qui m'a intéressée dans cette étude, c'est surtout qu'elle est très positive. En réalité, elle montre que les secteurs dans lesquels les inégalités entre les femmes et les hommes sont particulièrement bien identifiés, le travail, les transports, le monde politique, le monde économique, les familles, que 9 Français sur 10 sont favorables à la mise en place de programmes d'éducation à l'égalité à l'école, ce qui montre un large consensus, que 94% des Français considèrent que les hommes ont un rôle à jouer dans la prévention et la lutte contre le sexisme. Et ça, c'est un enseignement que je trouve très intéressant parce qu'en fait, les hommes ont toujours fait partie des alliés des causes féministes. Et là, depuis Mazan, je trouve qu'il s'est passé quelque chose de nouveau où les hommes revendiquent cette alliance-là parce qu'ils comprennent que c'est aussi un intérêt pour eux de faire advenir une société féministe. Donc je pourrais passer d'autres éléments très favorables de l'étude. En revanche, je ne comprends pas, je suis perplexe devant la communication qui a été faite par la présidente du HCE sur cette étude. C'est-à-dire que les propos qu'elle a tenus, pour moi, ne reflète pas le contenu de l'étude. Elle a en particulier...
Quand on regarde quand même, en tout cas sur les tranches d'âge et chez les plus jeunes, on voit quand même qu'il y a un vrai phénomène. Alors peut-être que le terme de masculinisme n'est pas le bon, mais en tout cas, on voit quand même qu'il y a une difficulté aujourd'hui à être un garçon ou à être un homme.
Alors
C'est de plus en plus ressenti, en tout cas.
J'ai repris 3 propos, dont celui que vous venez de citer, quand la présidente du HCE dit « les femmes sont plus féministes et les hommes plus masculinistes, surtout les jeunes ». C'est dangereux. d'utiliser une rhétorique pareille parce que ça tend à mettre sur le même plan le féminisme et le masculinisme. Et donc, je voudrais dire très rapidement que le masculinisme est un essentialisme biologisant selon lequel nos comportements en société découlent de notre sexe biologique et les rôles sociaux sont distincts et complémentaires. Ça n'a rien à voir avec le féminisme qui pose la question politique de la liberté et de l'égalité. La liberté contre les assignations de genre et l'égalité pour une société plus juste pour tous et pour tous. Et les progrès du féminisme ont fait advenir un progrès social général, pas que pour les femmes, mais bien au-delà. Et beaucoup d'hommes se retrouvent dans une société féministe parce que eux-mêmes ne veulent pas rentrer dans des codes d'une masculinité agressive et viriliste, un peu comme celle que promeut désormais Mark Zuckerberg pour faire une bonne figure devant
le
devant,
patron de Facebook.
Voilà, et de Meta, et... devant le trumpisme. L'autre chose qu'elle a dit, c'est par rapport à Mazan, elle dit « le violeur peut être partout autour de nous ». Et ça, je trouve que c'est dangereux aussi, puisque ça laisse entendre que tous les hommes ordinaires pourraient être de potentiels violeurs. Et mon expérience de magistrat m'a montré qu'en fait, ce sont un tout petit nombre d'hommes qui peuvent ressembler à des hommes ordinaires, qui sont des hommes ordinaires, mais qui ont des stratégies qui font qu'ils font énormément de victimes dans leur vie. Donc ce n'est pas tous les hommes qui sont des violeurs, il faut éviter ces généralisations hâtives. Et la dernière chose, c'est qu'elle a utilisé un contenu psychologisant en disant que les jeunes hommes étaient un peu perdus. Et ça, on retrouve dans toute la rhétorique de la crise de la masculinité depuis l'ère romantique, qui est qu'il y aurait une souffrance des hommes et un renversement victimaire. Non, c'est de la haine dont il s'agit et c'est ces réseaux sociaux qui leur apprend cette haine-là. Donc je pense qu'il faut regarder ces études, cette étude avec beaucoup d'intérêt, parce qu'elle est très, très favorable. Notamment, il y a, je finis sur ce chiffre, 2/3 des hommes et 3/4 des femmes qui pensent que l'action des pouvoirs publics est insuffisante pour lutter contre le sexisme et les violences de genre.
Et on va y revenir après, justement, peut-être aussi sur la démarche éducative qui serait nécessaire pour alors peut-être essayer que ça aille encore mieux que vous ne le dites, Magali Lafourcade. Pas convaincue, donc, en tout cas, sur la façon dont le HCE a communiqué autour de cette étude. Question un petit peu générale, Didier Lesquier, est-ce que c'est compliqué aujourd'hui d'être un homme en France, dans cette société qui a connu notamment la révolution MeToo?
Bon, c'est compliqué d'être un homme, c'est compliqué aussi d'être une femme, mais de ce point de vue-là, on peut considérer qu'il y a eu des avancées, il ne faut pas les sous-estimer. En particulier, on le voit dans un certain nombre de professions, Magali Lafourcade est magistrate. Aujourd'hui, il y a plus de magistrates que de magistrats. Hein. Il y a plus de commissaires de police femmes que de commissaires de police hommes, et même les CRS sont dirigés par une femme. Donc, et on pourrait rajouter les exemples. Il y a plus de femmes dans les amphithéâtres de médecine que d'hommes, et on sait qu'elles réussissent scolairement beaucoup mieux que les garçons, et là il y a un problème sans doute d'éducation. On le voit par exemple dans les concours administratifs, hein, où ça peut poser des problèmes. Je pense à l'administration pénitentiaire, où on a plus de femmes qui réussissent que d'hommes, et ça pose des problèmes dans la détention, parce que pour le coup, il y a plus d'hommes en détention que de femmes.
Ça peut créer du ressentiment, alors, justement, chez les hommes?
Alors, ça peut créer du ressentiment. On a toute une littérature sociologique sur certains secteurs de la jeunesse, hein, avec des livres « Sauver le jeune garçon », et on peut voir des problèmes récurrents avec, par exemple, des espaces publics dominés par des jeunes garçons où les femmes sont victimes, et ça peut renvoyer aussi à qui fait ou pas le trafic de drogue. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des filles qui ne fassent pas du trafic de drogue, mais c'est majoritairement des garçons. La violence dans l'espace public entre jeunes, c'est souvent un comportement de jeunes garçons. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de bande de filles, parce qu'il y a aussi des bandes de filles, mais on voit bien les avancées. On le voit aussi dans le monde politique. La présidente de l'Assemblée nationale est une femme. Les partis politiques aujourd'hui, même le courant politique qui en France a été le plus machiste, je dirais, la culture viriliste absolue qui était le Front National, aujourd'hui c'est le Rassemblement National et c'est dirigé par Marine Le Pen. On a parlé de l'Italie, c'est Giorgia Meloni, elle ne correspond pas au canon classique, je dirais, de la femme soumise, même si par ailleurs elle a un discours, je suis chrétienne, je suis une femme, etc. Mais enfin, je suis chrétienne, je suis une femme, elle a une fille aussi, je crois, mais elle n'était pas mariée au moment où elle a eu sa fille dans un pays hyper catholique. C'est, on voit bien qu'il y a quelque chose qui transcende. Et on pourrait même rajouter, et sur le plan politique, c'est très intéressant, parce que les femmes qui ont le plus marqué, on a parlé tout à l'heure de l'Italie, l'espace européen ces dernières années, sont des femmes, alors en plus des femmes de droite. Et je pense qu'il y a un problème pour la gauche, hein. Margaret Thatcher, Angela Merkel, aujourd'hui Ursula von der Leyen, on parle de Giorgia Meloni. Voilà, il y a quelque chose, et même dans notre mythologie à nous, et heureusement, la femme qui aujourd'hui mise en avant dans le cadre des débats sur le féminisme, c'est Simone Veil, c'est pas une femme de gauche. Hein. Voilà, il y a quelque chose qui est de l'ordre, et dans le même temps, si j'ose dire, et j'en terminerai par cette petite provocation, hein, la gauche est dominée par un mâle blanc dominant, hein, qui justement peut éructer et a les comportements personnels, politiques, etc., qui sont la caricature d'une forme de masculinisme politique.
Alors ça, c'est peut-être pour les leaders politiques, mais s'agissant des socles électoraux, c'est plutôt l'inverse, manifestement, Didier Lesquiel. Pour préparer l'émission, on est tombé sur un article du Monde d'avril dernier. C'est pas très vieux, mais c'est un sondage de l'Institut Gallup qui faisait état du fait que les filles, alors les jeunes filles, hein, qui vont voter, votent de plus en plus pour les partis progressistes, alors que les jeunes garçons, eux, penchent de plus en plus du côté conservateur, voire du côté de l'extrême droite. Ce qui est peut-être aussi un renversement historique aujourd'hui qui traduit cette polarisation, c'est-à-dire les femmes dont on craignait le vote parce qu'elles n'étaient pas assez progressistes à une époque, seraient peut-être celles qui défendraient le plus ces valeurs-là aujourd'hui, Marc Lazare.
Oui, d'après cette enquête, c'est vrai, et ça se retrouve dans pas mal de pays où il y a cette transformation un peu historique avec ce que vous venez de rappeler, des femmes qui sont plus du côté progressiste et des hommes plus du côté conservateur, pour ne pas dire traditionnaliste. Alors après, je crois qu'il faut être vraiment mettre beaucoup de prudence et beaucoup de nuances. Moi, je suis un peu gêné sur cette catégorisation les jeunes. Et je vais dire pourquoi. Parce que en 2021, avec Olivier Galland, j'ai fait une enquête pour l'Institut Montaigne qui a été publiée en début 2022, qui a eu d'ailleurs pas mal d'échos, sur les jeunes auprès d'un échantillon de 8000 jeunes français. 8000, ce qui est un échantillon considérable. Et cette enquête ne portait pas sur ces questions-là simplement. C'était une vaste enquête sur la situation des jeunes, leurs ressentis, leur rapport, leur situation après le Covid, la politique. Mais je voudrais vous donner quand même quelques données. Je précise que c'était pour des jeunes de 18 à 24 ans. Hein. Donc, tandis que l'enquête dont on parle, c'est 15-34 ans, ce qui était une catégorie sur laquelle on pourrait beaucoup discuter. Bon, est-ce que c'est vraiment est-ce qu'on est encore jeune une fois qu'on est rentré, notamment dans la vie professionnelle et que parfois on a fondé des familles? Mais nous, on a travaillé sur les jeunes de 18 à 24 ans. Et qu'est-ce qu'on a vu? Eh bien, quand on leur demandait quelle était la priorité, leur sujet prioritaire, le premier, c'était les violences faites aux femmes. Et c'était à 77%. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on avait fait deux autres enquêtes par rapport à ce qu'on appelait une population test aux alentours de 1000 personnes représentatives des parents et 1000 personnes représentatives de ce qu'on a appelé improprement peut-être les boomers, c'est-à-dire... On peut aller vite, les grands-parents. 77% donc des jeunes de 18 à 24 ans considéraient que les violences faites aux femmes étaient leur sujet prioritaire. 61% des parents et 77% des boomers. Donc première constatation, attention, les jeunes sont très sensibles et plus parfois que leurs parents et leurs grands-parents qui d'ailleurs ont très souvent, je vais le démontrer, une vision traditionnelle, ce qui est, si j'ose dire, normal, c'est leur culture, c'est leur référence. Alors cela dit, une fois qu'on a dit ça, on a décomposé. Et par exemple, c'est très intéressant de voir que 78% des enfants qui se disaient catholiques considéraient que c'était leur sujet prioritaire. Et ça peut surprendre. 85% des enfants qui se disaient musulmans, qui considéraient que les violences faites aux femmes étaient leur sujet prioritaire. Mais après, on voyait des différences. Et je voudrais prendre un exemple. On a posé la question, est-ce que vous pensez que les différences entre hommes et femmes sont dues toujours à des façons de penser et d'agir différentes du fait de leur sexe? Et l'autre question, c'était, est-ce que les différences entre hommes et femmes sont artificielles et uniquement produites par la société? Dans le premier cas, donc c'est des différences entre guillemets naturelles, il y avait 45% des jeunes qui le pensaient. Mais là, il y avait une différence entre garçons et filles, 51%. Donc, des hommes pensaient que c'était était due à leur sexe. En revanche, comme construction sociale, comme on dit sociologiquement, eh bien là, c'était 55% pour l'ensemble des jeunes, donc la majorité des jeunes qu'ils pensaient, mais c'était encore plus marqué chez les jeunes filles, donc 60%. Donc attention à ces généralisations sur les jeunes, et en plus, ce qui était dans ces deux questions, ce qu'on voyait, c'est que les positions les plus traditionnelles, c'est-à-dire les différences sont dues à leur sexe, étaient défendues par notre échantillon des parents et des boomers, y compris les femmes. Donc, moi, je crois qu'il faut être très prudent quand on dit, bien évidemment, je ne nie pas ce qui est dans cette enquête, c'est-à-dire qu'il y a des phénomènes dont on a parlé, ce, entre guillemets, masculinisme et cette résistance, ce malaise d'un certain nombre de jeunes garçons par rapport aux évolutions, justement, de la société sur ces questions. Mais je crois, encore une fois, qu'il faut être très prudent et, pour employer un verbe qu'on emploie un peu trop souvent, déconstruire cette catégorie des jeunes. Déconstruire parce qu'il y a différentes jeunesses, justement.
Propos de, plutôt des réactions et des analyses un peu plus optimistes que ce qu'en dit en tout cas le HCE dans sa façon de le formuler dans les médias. Vous partagez ça, Bertrand Badie ?
Non, je vais encore jouer le pessimiste si vous permettez, mais essayons de prendre un autre chemin. D'abord, je reviens à ce que vous dites au début, qu'il y avait trois hommes et une femme autour de cette table. J'étais un petit peu choqué. Moi, j'aurais préféré qu'on dise qu'il y ait quatre humains autour de cette table. Ce qui est quand même un petit peu différent. Pourquoi ? Mais oui, je vois Didier qui se fend la pipe, mais et il ne semble peut-être pas concerné dans la catégorie des humains, j'en sais rien. Mais il y a là quand même déjà un préjugé dans cette façon récurrente, c'est pas vous Hervé, mais récurrente, banalisée.
J'anticipais aussi les réactions des auditeurs.
Bon, j'espère que les auditeurs comprennent le message que j'envoie. Ce que je voudrais dire, c'est que derrière cette affirmation peut-être un peu provocatrice, il y a quelque chose de très fort. Je suis en train de lire en ce moment un formidable livre qui est le livre de Michel Agier sur racisme et culture. Et il nous rappelle ce que déjà Lévi-Strauss disait, c'est-à-dire que c'est le racisme qui a inventé la race ou la nature, en tous les cas, naturelle, de la race, de manière à mieux dominer ceux qui sont concernés. Le sexisme, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire il a inventé cette inégalité naturelle ou cette différence naturelle pour mieux assurer des logiques de domination. Donc il faut essayer de s'en défaire, bien sûr, mais se demander ce qu'il y a derrière. Ce qu'il y a derrière le réveil de cette pensée réactionnaire, c'est-à-dire de cette pensée naturaliste. Le naturalisme est souvent lié à cet esprit réactionnaire et qui tente effectivement, aujourd'hui, c'est pour ça que je suis plutôt pessimiste, à réamorcer, réengager le virilisme, le masculinisme. D'ailleurs, si Trump a choisi d'en se faire un cheval de bataille, c'est qu'il savait que ça parlait, que ça créait une certaine adhésion. Vous savez, moi, je me rappelle que quand j'étais gamin, j'étais à l'école, persécuté parce que j'étais pas un vrai français de souche, qu'on me traitait de bico, et mon père allait rouspéter auprès du directeur de l'école, qui disait, oh, c'est normal, parce que votre fils, il est faible en gymnastique, alors ses camarades ne le considèrent pas. C'est-à-dire cette espèce de postulat, n'est-ce pas, qu'un garçon doit être fort, sinon c'est pas vraiment un garçon, etc., etc. Or, et c'est peut-être là l'élément le plus important qui alimente au moins mes doutes, sinon mon pessimisme, il y a des situations dans lesquelles ce retour en force, du naturalisme devient déterminante et hélas devient payant. Au moins trois types de situations. D'abord, quand on a affaire à des sociétés en transition. Et c'est vrai que les sociétés qui sont en transition, en développement, comme on dit, sont très sensibles à cette thématique. Et le succès d'un Poutine, qui marche la main dans la main avec Trump dans ce discours dualiste, machiste et viriliste, le succès de Poutine dans le Sud, c'est parce qu'il ne cesse de dénoncer les Occidentaux, LGBT, homosexuels, des trucs absolument incroyables. J'ai lu une fois qu'on disait en Russie qu'il y avait en Belgique des bordels pour grenouilles. Vous vous rendez compte? Et que donc, mais oui, non, mais des choses absolument effrayantes, des bizarreries absolument incroyables. Mais ça prend, parce que dans les sociétés en transition, on a tendance à se raccrocher justement à ce que l'on considère comme des points fixes rassurants. Deuxièmement, c'est aussi quelque chose qui marche dans les sociétés qui ont peur. Et nos sociétés occidentales sont des sociétés qui ont peur. On a peur de la mondialisation, on a peur de l'autre. Et à partir du moment où on a peur de l'altérité, on aime bien les catégories naturalistes. Et puis enfin, dans les sociétés en décomposition, les sociétés anomiques, nous sommes une société qui vit une très forte crise des institutions. Bah, quand vous êtes dans une situation de crise institutionnelle, vous aimez réhabiliter le naturalisme. Alors tout ceci fait de ce virilisme un vecteur d'une idéologie réactionnaire, mais c'est à double détente, parce que il y a même un certain féminisme qui pointe à l'horizon, qui s'appuie sur ce discours naturaliste pour, par exemple, dénoncer l'immigration. Le collectif Némésis, par exemple, dont Monsieur Retailleau s'est empressé de dire qu'il est très très proche de ce que disent les gens d'extrême droite de Némésis.
Alors il a d'abord dit qu'il était très proche, avant de dire qu'il ne connaissait pas ce collectif et qu'il n'adhérait pas du tout à son idéologie.
C'est bien d'être très proche de quelqu'un dont on ne connaît pas du tout l'idée. Ah oui, c'est formidable, hein. Ça, dans une copie d'étudiant, ça vaudrait 17. Hein. Bon, mais de toute manière, le problème n'est pas là. Le problème est que je crains qu'en ce moment, dans ces logiques de transition et de peur, cet instrument nouveau qui vous permet de vous sauver en disant, bah, dans le fond, je suis supérieur à la femme, comme je suis supérieur au noir, comme je suis supérieur à l'immigré, devienne la banalité du discours contemporain.
Un point de vue un peu dissonant de Bertrand Badi. Je ne sais pas si ça douche votre optimisme, Magalie Lafourcade, mais je voudrais quand même qu'on évoque une question qui est peut paraître essentielle, ou alors peut-être qu'elle ne l'est pas si vraiment, on va dire, la question de l'égalité entre les hommes et les femmes a autant progressé. C'est celle de l'éducation à la sexualité, plus précisément d'ailleurs l'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité. Ça, c'est les termes du programme qui doit être mis en place à la prochaine rentrée. Elisabeth Borne, ministre de l'Éducation nationale, a dit que c'était quelque chose d'absolument essentiel. On sait qu'il y a aussi des luttes autour de ces sujets. Est-ce que ça vous paraît aussi essentiel pour, disons, peut-être consolider les acquis?
Tout à fait. Et je vais du coup rejoindre ce que disait Bertrand Badi là-dessus, avec ce sujet-là. Cette éducation à la vie affective et sexuelle, elle est dans la loi depuis 2001. Tous les ans, les enfants du primaire, du collège et du lycée doivent recevoir 3 cours. Et cette loi n'est pas appliquée. Et il y a de plus en plus de collectifs issus de la Manif pour tous, qu'on appelle les veilleurs, qui essayent de rentrer dans les associations de parents d'élèves pour empêcher aussi la tenue de ces cours-là. Et donc on est face à une minorité, une toute petite minorité, ultra conservatrice, souvent d'extrême droite, en tout cas de droite très radicale, souvent ultra catholique, qui a décidé d'être déterminée, agissante sur ce sujet-là, et qui conteste l'idée de faire du consentement une nouvelle norme éthique, et qui dit que si on a l'égalité, donc c'est là où on voit que dans le masculinisme, il y a un projet politique de réfutation de l'égalité, et pas seulement entre les sexes, mais aussi entre les ethnies, etc., et donc avec une idée de suprématie blanche, et donc cette petite minorité agissante, très structurée, très financée, a réussi lors du gouvernement Barnier, à faire capoter ce projet qui avait un consensus total dans la communauté éducative, qui a été fait par des professionnels de toute discipline et qui était très bien reçu. Et donc on voit que c'est une toute petite minorité agissante qui a une visibilité et un pouvoir complètement disproportionné. Donc si Elisabeth Borne arrive à résister à ce mouvement-là, c'est parfait, c'est très bien. Mais je voudrais aussi dire que dans tous les mouvements réactionnaires d'ampleur et dans les mouvements fascistes, totalitaristes, le nazisme en particulier, il y a toujours eu des femmes qui ont été portées comme des alliés, comme Némésis par exemple aujourd'hui, pour pouvoir être utilisés pour adoucir l'image misogyne. Donc c'est une habitude. Et donc je voudrais aussi dire que ce n'est pas que l'extrême droite qui a le monopole du masculinisme. Il y a aussi les fondamentalistes, je pense à l'Afghanistan avec cet apartheid de genre qui est, ce terme-là est en train de se densifier aux Nations Unies pour devenir un concept et qui vise à effacer de l'espace public les femmes. Comme l'a dit tout à l'heure Didier...
Quand vous dites, pardonnez-moi, c'est en train de se densifier aux Nations Unies. États-Unis.
Oui, c'est-à-dire que le concept est en train d'émerger puisque l'apartheid de genre est un mot nouveau, une terminologie nouvelle et qui trouve à s'appliquer dans certaines situations comme l'Afghanistan. Et donc, on a besoin de s'outiller, de s'armer intellectuellement, idéologiquement pour pouvoir arriver à répondre à cette situation, arriver à comprendre, à la déconstruire, en fait. Voilà. Mais donc, la gauche, pendant longtemps aussi, n'a pas été un allié des féministes. C'est très récent, ce mouvement-là. Longtemps, les féministes ont été vus comme un mouvement bourgeois et illégitime. Et je voudrais juste finir quand même par le fait qu'aujourd'hui, la puissance économique appartient encore massivement aux hommes. Les femmes sont moins payées que les hommes à travail égal et que la mission interministérielle de protection des femmes et de lutte contre les violences faites aux femmes a recomptabilisé le nombre de féminicides. Et elle dit maintenant, c'est pas une femme tous les deux jours et demi, c'est 3 femmes par jour. Parce qu'elle inclut les féminicides indirects. Donc les violences faites aux femmes sont quelque chose de massif. Il y a eu aussi des attentats en Occident qui étaient des féminicides de masse. Ne l'oublions pas.
C'était le mot de la fin. Merci Magali Lafourcade, Bertrand Badi, Didier Lesky et Marc Lazard d'avoir participé à cette discussion. Émission préparée comme chaque semaine par Anne-Claire Bazin, réalisée par Luc Jeanrenaud avec à la prise de son Anthony Thomasson. Émission que vous pouvez évidemment retrouver sur le site de France Culture et sur l'appli Radio France.